Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission malaika. Livres et Amis du 28 février 2024. Dominique et Françoise au micro, Sidi à la technique. Et après la lecture de poésie de l'autrice palestinienne Olivia Elias de la semaine dernière, je vous avais annoncé pour cette semaine un voyage bien différent et dans des territoires bien éloignés. Alors je tiens parole, je vous emmène aujourd'hui en Union soviétique, en Russie, en Sibérie, à Moscou. Et surprise dans les bagages d'une autrice québécoise, en fait, une jeune autrice d'une quarantaine d'années. C'est la romancière Perrine Leblanc qui aime dérouter ses lecteurs, en particulier par ses titres. Son dernier ouvrage paru, c'est Les gens du Nord. Eh ben, les gens du Nord, non, ce ne sont pas les gens du Grand Nord canadien, comme on pourrait s'y attendre de la part d'une Québécoise. Ce sont les gens du Nord de l'Irlande. Et pour le roman que nous allons lire aujourd'hui, en fait, il est paru donc sous le titre de Colia dans l'édition française en 2011. Il était paru en 2010 au Québec avec un titre différent qui était L'homme blanc. Alors l'homme blanc des neiges du Nord, eh bien non, l'homme blanc c'était en fait l'homme blanc par son maquillage, le clown blanc en fait, un clown que Colia, le personnage principal du roman qui tire son titre de son nom, un clown blanc donc que Colia va devenir à son âge adulte à Moscou. Après des rencontres fortuites et après surtout une enfance et une jeunesse assez terribles dans le camp, le goulag de Sibérie où il est né. Alors, Perrine Leblanc, encore un blanc, Perrine Leblanc choisit donc des thèmes très éloignés de ceux de son Québec natal. Vous savez, nous avions évoqué ensemble plusieurs fois des romans québécois qui représentaient bien leurs auteurs, puisqu'ils étaient souvent liés à la culture amérindienne ou à la culture mixte, disons, des Québécois. Avec Colia, rien à voir. Perrine Leblanc choisit donc l'exotisme russe et l'histoire, puisque c'est celle de la deuxième partie du XXe siècle, celle de l'évolution de l'Union soviétique avec un retour donc sur la Russie. Et dans un pays avec une population qui connaissent bien des bouleversements de la Deuxième Guerre mondiale à la fin du XXe siècle et qui continue à faire, bien sûr, beaucoup parler de lui, ce pays de Russie maintenant. Le fil rouge de l'histoire, c'est Colia, donc le personnage central. Colia et ses amis proches qui nous permettent d'entrer dans la réalité sociale russe et même la réalité sociale soviétique de, je vous le disais, l'après-Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, 70, etc. Si j'ai choisi ce roman, Colia, c'est que l'écriture de Perrine Leblanc est assez magique. Dans un style très simple, elle recrée tout un monde. Et j'espère que ce monde, vous y pénétrerez avec le même plaisir que j'ai ressenti, un plaisir d'un univers totalement différent, en effet, qui se crée autour de l'écriture et de la lecture qu'on a de Perrine Leblanc. Commençons donc avec l'enfance de Colia au goulag.
Colia vit le jour en 1937 dans un camp de travail. Il a toujours préféré taire le nom complet de son lieu de naissance. Nous nous contenterons de dire qu'il s'agit des monts K. La Sibérie recouvre environ 13 millions de kilomètres carrés. À certains endroits, c'est une fosse commune et sceptique. Dans la zone A, il dirait aux autres prisonniers: j'ai volé pour la première fois à l'âge où les enfants apprennent à lire. C'était sa façon de résumer les premiers temps de son art. Il s'appelait Nicolas, mais tout le monde le surnommait Kolia. En prison, après l'implosion de l'Union, il découvrirait la pérennité de certaines conditions d'existence dans les enclos où les hommes devenaient des bêtes marquées. Il traîna avec lui dans le monde libre l'odeur des chiottes du camp et des morts qu'on découvrait au printemps. Cette odeur reste en mémoire et sur soi. Les corps qui revenaient du bagne étaient indécrottables. L'homme qui donna à Kolia son patronyme, Vladimirovitch, n'était pas vraiment son père. Son géniteur, mais il ne le sut jamais, était un fonctionnaire qui avait violé sa mère. Kolia vécut d'abord avec elle dans le baraquement des femmes, puis voyagea entre la crèche et leur couche commune. On le traita comme un enfant qui compte peu, mais parce que sa mamka avait des avantages sur les autres, il eut droit à l'essentiel pour se développer. Son père, entre guillemets, avait été professeur et se méfiait de la politique. Sa mère jouait du piano et chantait bien. Sur dénonciation anonyme, on les avait déportés au nord de Moscou, puis, ensemble, à l'extrême est. Ensemble, c'était une chance. On épargna à sa mère les travaux lourds du fait de sa grossesse et de son talent pour la musique. Chaque semaine, elle donnait un récital pour le personnel libre dans le bâtiment qui avait déjà abrité le département culturel et éducatif du camp. Les apparatchiks n'avaient pas le cœur à la bonne place, mais parfois, ils avaient du goût. L'enfant Kolia s'amusait souvent avec une boule de quilles fabriquée sur place par sa mère durant le dernier mois d'été qui avait précédé sa naissance. La surface du jouet était irrégulière. Pendant qu'elle travaillait son champ et reprisait les vêtements des services, il détaillait la boule et la caressait. Il en connut assez vite les aspérités. Il dormit avec sa mère, but son lait tant qu'il put. Les enfants nés entre les murs devaient en général être séparés de leur mère avant de se mettre à marcher, si on pensait à le leur apprendre, sinon ils rampaient jusqu'au trou de leur mort. Kolia eut la chance exceptionnelle de rester auprès de la sienne jusqu'à ce qu'elle disparaisse. On lui attribua un matricule pour l'identifier, mais son statut était flou, entre prisonnier et enfant soviétique. Il put conserver la boule de quilles, une couverture assez rêche, celle de sa mère, et les vêtements qu'il portait. Le caban rembourré qu'on lui donna était deux fois trop grand pour lui. L'ourlet des manches fut replié sur le coude, mais retombait souvent dans la soupe. Kolia suçait l'ourlet goûteux entre deux tâches et ça lui donnait l'illusion de manger. On le transféra dans une chambre de baraque qu'il partagerait avec des garçons sans cheveux. On rasait les prisonniers à la lame nue et au savon noir. La main qui rasait appartenait toujours à un barbier zec. Un crâne nu n'est jamais lisse, il laisse voir les blessures, les irrégularités de la structure et la pointe drue des cheveux qui repoussent. On le rasa rapidement comme les autres, même si son corps était impubère. Avec sa crinière aux épaules, il ressemblait d'ailleurs à une fille. L'absence de miroir l'empêcha de s'examiner autrement que par le toucher. Il se mit à éprouver le froid plus intensément et à craindre sur la peau de son crâne les crises d'urticaire provoquées par les bonnets de laine. Mais il avait compris que le coton de ses vêtements de corps était tendre pour la peau. Alors une nuit, il se glissa sous le lit d'un camarade et lui vola son bonnet de coton qu'il porterait désormais sous le bonnet de laine pour se protéger du froid de l'hiver total et du feu des crises. En principe, on aurait dû l'envoyer à l'orphelinat, dans le monde libre, mais la ville la plus proche était trop loin. On préféra le garder pour le travail. On espérait aussi lui découvrir un don pour le chant, mais il chantait faux. Il avait droit à sa cacha du matin,
cacha,
à son bol de soupe midi et soir, à un pain, à de l'eau et à du poisson parfois, ou plus rarement, à de la viande séchée. Mais pendant quelques années, jusqu'à l'âge de 10 ans, pour tout dire, on ne lui confia pas d'autre tâche que celle de vider les seaux communs et de récurer les chiottes. Certains prisonniers l'envièrent et il dut, pour obtenir un semblant de paix dans la baraque, céder la couverture de sa mère. Manque de chance pour Kolia. La chance remplaçait Dieu au camp. Le caïd qui menaçait de le battre à mort voulait plus. la moitié de ta ration de pain. Kolia, que rien n'étonnait, pas même une déclaration de guerre du pain, tint bon. La couverture, mais pas le pain. Il était petit, maigre comme tous, mais sa résistance aux éléments et à la cruauté, surprenante chez un enfant né dans la pourriture humaine du camp, jouait en sa faveur dans ses rapports avec les autres. Le caïd aux dents pourries le laissa tranquille, car voler le pain d'un autre zec, c'était un crime passible de la peine de mort qu'ils arrangeaient entre eux. À la puberté, après que le caïd eût été fusillé pour avoir tenté dans un geste suicidaire de franchir le périmètre de sécurité, Kolia récupéra son étoffe usée. De temps en temps, l'été surtout, parce que les journées de travail étaient plus longues, on lui demandait aussi de nettoyer la chambre du médecin, un homme cultivé qui vivait au camp avec sa famille. Il eut accès à la bibliothèque du fonctionnaire. Il se passionna pour les caractères imprimés. Il passait souvent ses doigts sur les phrases. Il respirait le creux des livres parce que ça sentait bon. Il ne comprenait pas ce qu'il touchait. Personne au camp n'avait eu l'idée de lui apprendre à lire.
C'est donc l'enfance de Kolia, oui, avec, j'ai repris Kasha, parce que Kasha, c'est la base de la nourriture pour les prisonniers en général, mais pour beaucoup de Russes aussi. Donc, Kolia est un zec, c'est-à-dire un prisonnier des camps. Les camps qui existent toujours hein, dans la Russie de Poutine et où vient par exemple de mourir Alexei Navalny dans un camp loin vers l'Arctique. Finalement, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas vraiment changé, en particulier justement les conditions de vie des zecs dans les goulags. Alors, avec le chapitre qui s'ouvre maintenant, on va en apprendre un peu plus précisément sur ces zecs et sur ces conditions de vie, celles de Kolia et celles des autres prisonniers des goulags en général. La population du camp se composait de marginaux, de criminels endurcis, d'opposants politiques, de prisonniers de guerre, de fonctionnaires arbitrairement déchus. Kolia n'appartenait à aucune catégorie, quoique celle des opposants politiques pût bien inclure une sous-section pour leurs fils et leurs filles. Les hommes potables, c'est-à-dire assez forts pour travailler comme des bœufs, passaient la journée dans les mines d'or. Les plus maigres, encore valides, mangeaient moins, ils abattaient des arbres avec les femmes ou déblayaient les routes enneigées. Les autres, en fin de course, les crevards, étaient rationnés, sans compassion, et mouraient vite. Les baraques de bois ou de pierre, construites par des zecs morts depuis, protégeaient à peine les hommes ou les femmes du froid et du bruit. Le vent passait entre les planches des parois, s'engouffrait, et son sifflement rendait fous les plus fragiles. Le sol des baraques, construit avec des lattes de bois humides, pourrissait parfois là où les hommes faisaient leurs besoins la nuit, et sous les lits, quelquefois, les planches craquaient. Au sol, voilà, les planches craquaient. Un an après leur arrivée dans les monts K, la majorité des zecs parqués dans cette région du bloc mouraient. Mais Kolia a toujours échappé aux statistiques. Les conditions s'étaient d'ailleurs légèrement améliorées au camp depuis la fin de la guerre. On travaillait 2 ou 3 heures de moins qu'avant, seulement une dizaine d'heures par jour quand même. Et on avait faim, Kolia avait faim au fur et à mesure qu'il grandissait, mais que sa ration, elle, n'était pas modifiée. La faim s'ajoutait aux autres violences faites au corps. Un soir, un homme s'installa dans son lit, comme c'était déjà arrivé quelquefois avec des prisonniers malades. « Allez, on dort ensemble maintenant. Je m'appelle Yosif. Je suis Kolia. On parlera demain. » Au moment où la cloche sonna, le lendemain matin, le type était déjà debout, habillé et prêt pour la cache. Ils mangèrent en silence. Kolia l'examinait, l'observait par en dessous. Cet homme, il était suisse, un suisse amusé, qui observait tout, qui parlait russe, français. Et pendant que Kolia attendait les instructions de son narratchik, un voleur de bijoux déporté que le service avait nommé « chef », Il regardait aussi ce Suisse qui finissait tranquillement sa cache. Kolia passait l'après-midi à nettoyer les chiottes ou les bacs qui servaient pour le trempage et la désinfection des vêtements souillés. La plupart du temps, on les faisait bouillir et quelquefois, on les nettoyait un peu mieux. Le répartiteur s'approcha et lui dit simplement qu'à partir de ce jour, les choses changeraient un peu. En fait, Kolia allait apprendre à lire. Tous les matins, à partir de ce jour-là, on lui apprendrait à compter et à écrire le russe. Et l'après-midi, il reprendrait son travail pour le nettoyage des chiottes ou du reste. On lui fit comprendre qu'il avait de la chance. Après la soupe de céréales et l'appel matinal, Kolia suivit donc le Suisse dans un local un peu chauffé, avec une ardoise fixée au mur. On ne fournissait aucune craie, mais sur un autre mur, pendant à l'ardoise, il y avait un portrait. Kolia avait déjà vu le visage de l'homme encadré. Il demanda à l'homme qui c'était et le Suisse répondit « Staline ». Un cahier et deux crayons sur une petite table pour les exercices, le sifflement du vent, le bruit des voix, les bruits sourds des pelles ou des cris isolés à l'extérieur. Kolia était seule avec son professeur. Il y avait en principe un garde à l'extérieur, mais il se montrait rarement. Et donc finalement, tous les deux, ils pouvaient se parler à peu près librement. Une forme de repos, une forme de liberté. Yossif avait remarqué que les muscles du cou de Kolia étaient tendus et tressautaient par des mouvements violents, que l'enfant avait le regard intelligent, que ses réponses, même pendant le genre de classe qu'il s'était organisé, étaient toujours correctes. Alors un matin, durant l'année qui suivit leur rencontre, il décida de lui apprendre, en plus du russe, de l'arithmétique, de lui apprendre donc le français et de vrais rudiments de mathématiques, ce qui lui permettrait de survivre après. « En fait, je vais t'apprendre aussi le code du ZEC, et ça, tu vas l'apprendre par cœur. » Il commença l'enseignement des règles qui étaient les siennes depuis son arrivée en Sibérie, les règles que le petit allait adopter comme son art de la guerre. « Mange moins que ta ration quotidienne. » pour habituer ton corps à la faim. Ne mange pas tout ton pain le matin, cache ce qui reste dans ta poche, ça peut toujours servir, en particulier d'échange. Ne donne jamais le surplus au caïd, mais fais du troc. Arrange-toi pour avoir l'avantage dans l'échange. Sois discret, ne te fais remarquer que si tu es le plus fort et que l'autre n'a pas la possibilité de te détruire. Si tu peux, lis dès que tu peux. Si tu ne peux pas, récite-toi dans ta tête quelque chose qui ne vient pas de toi. Récite-toi ce que tu as lu ou alors même les paroles délirantes d'un autre que tu as entendu. Essaye de mémoriser, essaye de lire, même les inscriptions obscènes sur les murs. Pratique ton français. Pratique ton français, par exemple, quand tu as froid ou faim. Accorde tes verbes en français, accorde tes déclinaisons en russe. Sois prêt à toujours répondre dans l'une ou l'autre des langues. Imagine Moscou ou Paris ou Leningrad. Invente ce que tu ne peux pas véritablement imaginer d'après ce que je t'ai dit. Entraîne-toi à sentir, voir, toucher et n'oublie pas, tu es libre dans ta tête. Tu peux penser ce que tu veux. Et surtout, mets systématiquement en doute tout ce qu'on te dit. Pratique le doute comme une discipline. Voilà, c'est l'enseignement de base de Yossif et cet enseignement, ça va bien servir à Kolia. Kolia vit des cadavres, parfois même ceux d'hommes qu'il connaissait, avec qui il vivait. Il finit par ne plus rien éprouver à leur vue. Il s'habitua à voir mourir autour de lui. Mourir de froid, mourir de faim, mourir d'abrutissement. Sa mère lui manquait, ou enfin une présence dont il aurait voulu se souvenir. Mais la réalité du camp le ramenait au présent, aux besoins primaires à combler, et donc à lui-même. Il craignait les coups des gardiens, mais pratiquer sa langue maternelle lui permettait d'échapper au temps, lui permettait en effet de penser à autre chose. Kolia comprit aussi avec le temps que Yossif était le favori d'une personne importante. Il travaillait toujours à l'intérieur et un peu moins que les autres. Il mangeait mieux. Il recevait du courrier en français. Donc s'il pouvait recevoir du courrier, c'est qu'il était protégé. Parce que recevoir du courrier, c'était rare. Et un recevoir rédigé dans une autre langue, non raturé par une main fonctionnaire, c'était quelque chose d'inconnu, cela relevait du phénomène. En fait, l'expéditeur s'appelait Tania, c'était la sœur de Yossif. Elle vivait à Moscou et c'était elle qui écrivait en français. Lorsque Kolia eut 14 ans et qu'un bougre se mit à le détailler dans les douches qui aurait rappelé l'horreur à un survivant d'Auschwitz, Yossif compléta en classe de baraque son code du ZEC. Si on te met la main au cul, dis que tu es malade. Comme ça, peut-être qu'on te laissera tranquille. Alors Kolia passa 16 ans au camp et Yossif, il l'a connu quoi ? 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être ? C'est donc cette vie du camp que Kolia apprend avec Yossif et c'est surtout survivre au camp que Kolia apprend avec Yossif. Au camp, les rencontres sont primordiales et même dans la Russie de l'époque, ou plutôt dans la Russie soviétique de l'époque, les rencontres, c'est la clé de la suite de la vie pour Kolia comme pour bien d'autres. Désormais, sa vie sera rythmée par ces espèces de rencontres clés, ces rencontres de chance, on pourrait dire, qui lui sont données dans les épisodes, dans des épisodes différents et qui vont lui permettre de continuer à vivre au camp d'abord et à l'extérieur ensuite. On va voir la suite avec Françoise.
L'homme nouveau. Staline mourut en mars 1953. Khrouchtchev serait nommé premier secrétaire du parti en septembre. Des amnisties furent accordées aux prisonniers. Kolia fit partie des premières cohortes de prisonniers libérés, ces hommes nouveaux, souhaités un temps par Staline, des hommes hagards en fait. Il quitta les Monka au début de l'automne, emporta sa couverture élimée, celle de sa mère n'avait pas tenu le coup, des vêtements de corps pleins de poux, un pantalon de laine qui lui faisait des plaques d'allergie sur les mollets et les cuisses, une chemise, une veste chaude mais trouée, un couvre-chef, des gants, l'enveloppe contenant les papiers de Yossif et les siens. Il emportait aussi quelques roubles gagnés en travaillant. On le lâcha à Magadan, comme dans une jungle. Il ne sut pas vraiment comment vivre en homme libre au début. Un langage était à apprendre. On lui offrit une petite pension et il put se reposer quelque temps, après quoi on lui assigna un travail. Une douleur à la hanche se manifestait parfois avant les tempêtes. Le monde soviétique était juste un peu plus libre que le bagne. Il passa tout son temps de travail à la maintenance des routes. Cet hiver de 1953-1954, il pelleta et dégagea les rues de son quartier, cassa la glace jusqu'au gravier. La routine était familière, mais ses muscles, qui n'avaient pas fondu au camp, puisqu'il n'en avait jamais vraiment eu, se développèrent à une vitesse étonnante dans la douleur. La peau de ses bras se couvrit de vergetures rouge vin. Il dormait mal, cherchait le bruit des autres dans sa chambre, ne ramenait chez lui que le toc des pelles et des pics. Le silence réel était en trop. Le toc, ça te dit quelque chose ?
Le toc. Toc, toc,
ah, le toc, toc des pelles, toc. D'accord. La nourriture était... Je pensais à de la bouffe, c'est bizarre. La nourriture était plus abondante qu'au camp, mais pas très variée. Kolia ne cuisinait pas. Pendant des mois, il ne se nourrit que de pain dur, de chou bouilli, de bouillon et de poisson séché. Il apprit à boire le thé, qui le faisait pisser comme un enfant, mais qui calait bien lorsque les provisions manquaient. Il développa son goût et décida qu'il aimait la cardamome dans le thé fort. On le réhabilita au printemps 1954. Il eut droit à un papier officiel lui permettant de circuler sur le territoire, mais aucun document concernant sa mère, surtout, et son père, dont il ne savait toujours rien, ne lui fut remis. Ces nouveaux papiers étaient une sorte de passeport intérieur sur lequel on avait entre autres inscrit sa nationalité russe et sa citoyenneté soviétique. Kolia écrivit une lettre à Tania, la sœur de Yossif. La lettre serait lue par au moins un tiers inconnu, qu'il la raturerait peut-être. Il ne prit aucun risque et la rédigea en russe. Il lui raconta dans des mots simples son arrivée à Magadan, puis la vie quotidienne à Khabarovsk et sa réhabilitation et son désir très fort de s'installer à Moscou. Il parla de la disparition de Iossif, mais n'osa pas écrire le mot mort. Il dit comment Moscou le tentait.
Donc la suite, ce sera ça, ce sera la réponse de Tania et la direction qu'il prend vers Moscou. Dans la mesure où Tania l'invite, il peut en effet se déplacer. Dans sa valise, il avait mis ses provisions de nourriture, soit 4 saucissons, du hareng fumé, 3 miches de pain, dont une très dure mais déjà tranchée qu'il pourrait tremper dans du thé, ses papiers et le reste, presque rien, entre ses lèvres roulé serré comme une cigarette, son billet de train pour Moscou. Le temps était doux mais pas encore assez sec pour les bourrasques de poussière qui rayent les dents. Il s'installa sur la banquette près d'une fenêtre, derrière une famille nombreuse qui traînait avec elle une nourriture sentant fort mais bon. Il mangea un peu de pain chaque jour. Le compartiment ouvert se remplissait, puis se vidait. Moscou, qu'il avait vu en photo, était à près de 9000 km de là. Tania avait réussi à lui obtenir, vu les privilèges de ses relations, un visa, puis un visa prolongé. Et donc, il allait accepter, en échange de petits boulots, que ses concitoyens puissent le libérer de Khabarovsk pour aller à Moscou. Le paysage qu'on voit défiler le jour est évidemment très beau. Les rivières, les fleuves qui coulent vers le nord pour se jeter dans l'océan Arctique, l'immensité qui laisse penser que tout est possible, et le lac Baïkal où la faune si singulière est une exception sur Terre. Le lac Baïkal que le train contourne et longe au sud sur des kilomètres et des kilomètres. Le paysage est là pour faire espérer. Et puis il y a des pancartes immenses à l'effigie de figures marquantes du socialisme plantées dans le sol et installées dans les gares. On trouvait même encore des affiches cartonnées avec la tête de Staline. Et Ivan Ilitch, lui, était partout. Kolia se répétait souvent ce que Iossif lui avait dit pour leur quinquet au camp. Ne sois faible que si l'autre est plus faible. Ne respire pas moins vite que l'ennemi. Il faut manger 2 repas sur 3, habituer ton corps à la faim, il faut dormir moins, il faut penser plus. Il faut continuer à lire. Il faut se souvenir, il faut réciter, par exemple, Victor Hugo. Tu sais, Odile aussi, elle récite Victor Hugo. Kolia ne quitta pas sa place près de la fenêtre. Enfin, simplement pour aller boire ou se soulager. Et à l'approche de Moscou, les passagers se sont multipliés. Il n'y avait plus de thé. Les passagers voulaient boire chaud, mais non. Rien à faire. Enfin, on allait arriver. Le train s'immobilisa à la gare de Yaroslav le jeudi 5 août 1954. C'était devenu le point zéro du parcours. Kolia chargea son sac sur l'épaule. Tania et son compagnon le trouvèrent sur la place Komsomolskaya, devant la gare. Et ils l'emmenèrent avec eux dans leur salon cuisine d'un petit 2 pièces. L'appartement comptait en fait 3 pièces, puisqu'on compte la cuisine. L'homme les laissa en tête à tête. Tania resta avec Kolia et elle ressemblait, oui, au portrait qu'il avait vu d'elle montré par Iossif en 1951. Elle lui fit de la soupe. Leur conversation finalement ne menait nulle part et elle parla des légumes, de la soupe et de la viande achetée un peu par hasard le matin même. Et puis le lendemain, on lui montra le foyer de travailleurs où il vivrait désormais, situé en dehors de la ceinture des jardins qui délimite le périmètre de la beauté historique de Moscou, avec un dortoir où il installa ses affaires. Le lit était le seul espace de liberté individuelle pour chaque homme. Le couvre-lit était jaune, l'oreiller trop plat, on glissait un pull-over en dessous pour lui donner du gonflant. Voilà, c'était Moscou et Kolia commença immédiatement son travail dans les égouts de la ville, sous les fondations d'un hôtel en construction. S'y rendant pour la première fois, il vit des taxis, les voitures qui sillonnaient les rues. Il eut pour tâche de passer les outils aux ouvriers et de charrier la boue et les roches qu'un camarade allait ensuite porter en camion dans un trou en banlieue, plus loin, plus loin, plus loin de la ville. Les ouvriers ne se parlaient pas beaucoup. Les amitiés, finalement, se liaient plutôt au foyer. Alors, avant de parler un peu plus de Moscou et de la vie de Kolia à Moscou, on va vous mettre de la musique russe que tout le monde connaît. En français, on a appelé ça le temps du muguet, mais en russe, c'est les soirées de Moscou. Et vous allez voir, c'est très romantique, les soirées de Moscou. C'était donc les soirées de Moscou du musicien russe Vassili Soloviev-Sedai, très connu et très reconnu même à l'époque de Staline et après. Alors, les soirées de Moscou, Kolia va rapidement les apprécier. En fait, il prend la pleine mesure de la ville au parc Gorki. En empruntant le pont piétonnier le plus proche, qui surplombe la Moskova, il a gagné un jour, comme ça, le quartier Frantsousenskaya, celui des artistes de cirque, le quartier des artistes aussi du Bolchoï, des éditeurs, des écrivains. C'est là qu'il habiterait un peu plus tard. Il était peuplé d'enfants, d'hommes, jeunes et vieux, de femmes, vieilles et jeunes. On jouait aux échecs sur des tables basses en bois, on lisait sous les arbres, on jouait aussi... quelquefois avec un bleu de travail qui avait servi la journée. Et on entretenait son corps justement pour l'endurance au travail ou pour le plaisir de la liberté de faire jouer son corps le soir dans des exercices différents. Les femmes portaient de jolies robes, enfin des robes différentes de celles qu'il avait vues jusqu'à là. Il y avait des appareils de gymnastique qui servaient à muscler les corps. Il y avait des haut-parleurs qui diffusaient de temps à autre des musiques, par exemple les soirées de Moscou, n'est-ce pas ? C'était Ivan Rebrov qui chantait tout à l'heure. et des haut-parleurs qui diffusaient aussi de la musique russe qu'on appelle classique. On se cultivait, on se divertissait et finalement c'était une vraie foule qui prenait des loisirs après le travail. Kolia fit aussi connaissance avec le métro. Il se laissa porter sous la terre par l'escalier mécanique. Il fut très impressionné par tout ce qu'il voyait. Il observa les passagers. Il ne remarqua pas que ces stations étaient finalement extraordinaires du point de vue esthétique. Eh oui, le métro de Moscou, c'est connu, hein. Donc, il observa les passagers. Ces stations extraordinaires du point de vue esthétique, il posait son regard dessus. Il voyait, oui, le marbre rose, les mosaïques, les lustres. Mais on le heurtait, on le bousculait. Le métro, il n'apprécia pas trop. Il continua à circuler en ville avec les tramways. Il préférait rester dehors. Et puis, dans le métro, on lui reprochait sa maladresse. Et il réalisait que le russe qui parlait n'était pas tout à fait celui des moscovites. C'était une langue plus rustre, plus simple. Donc finalement, il détesterait assez vite ce métro et il continuerait à circuler, oui, en tramway, comme on l'a dit. Le soir au foyer, il faisait la cuisine avec deux autres ouvriers du chantier, Volodia et Micha. Il fournissait le pain, la crème, les autres s'approvisionnaient chez des épiciers en passant, en rentrant du travail avec ce qu'ils trouvaient, des légumes, quelquefois de la viande. Et puis, ils avaient du pain, ils se faisaient leur gamelle et comme ça, ils dînaient le soir. Un homme le regardait souvent, Alexei, il faut se le mettre dans la poche, avait dit Micha. Alexei, en fait... C'était la taupe pour le comité, le membre du Komsomol. Donc Alexei, bah oui, Kolia se mit bien avec lui. Il attrapa la bouteille de vodka qu'on lui avait offerte au début. C'était Tania qui lui avait offerte. Il la déboucha et il servit ses copains et il servit Alexei aussi. Et puis, en se promenant, un jour, il tomba sur d'autres gens qui avaient vraiment une allure différente. Un type un peu mieux vêtu que tout le monde, carrément mieux vêtu que tout le monde, accompagné d'une femme avec une robe à fleurs vraiment originale. Et l'homme le fixait à travers la lentille d'un appareil. Kolia, involontairement, heurta la femme en reculant brutalement. « Rassurez-le, rassurez-le, s'il vous plaît, » dit l'homme qui était derrière l'appareil. « Ben oui, l'appareil. » Ce n'était pas quelqu'un qui se proposait de lui tirer dessus, c'était un photographe. Un photographe qui s'était adressé en français à cet homme et cette femme qui l'accompagnaient. Donc en russe, on rassura Kolia qui avait compris déjà sa méprise. Il avait bien compris le français. Et en les contournant, il se retint de répondre au photographe dans sa langue. En fait, il ne traîna pas sur place. Mais ça y était quand même. Il avait créé des liens avec la ville, créé des liens avec d'autres gens, commencé à parler. Il était prêt pour d'autres rencontres. Alors voilà, ces autres rencontres, ça va être après Françoise qui va nous en parler, enfin qui va nous lire les extraits qui les concernent. De nouveau, donc, la vie de Kolia va être déterminée par des rencontres différentes. Il a rencontré Yossif, il a rencontré Tania, il a presque trébuché sur l'appareil photo d'un photographe. Et maintenant, il va faire connaissance avec Pavel. Le photographe ou les gens qu'il a rencontrés au parc Gorki, c'était un peu des signes. Moscou, c'est le signe d'autres rencontres et donc cette rencontre importante de Pavel à partir de là.
En 1961, dans un bar sans nom, sans numéro pour l'identifier, Kolia rencontra Pavel. Le bar s'était installé dans une cave du quartier de Taganskaya. Il servait de point de rencontre vaguement clandestin, mais recevait officiellement, le premier vendredi du mois, un cercle d'artistes amateurs. C'était le club de théâtre amateur du Cercle des ouvriers auquel Kolia appartenait. Pavel Petrov mesurait 2 mètres. Il avait les yeux verrons. Du côté de l'œil brun, ses cheveux étaient châtains. De l'autre côté, ils étaient blonds, mais sa chevelure était subtilement marbrée. Personne ne le provoquait. De toute façon, il était assez doux, sauf si la discussion s'animait en fin de soirée, après la vodka et le vin de pomme habituel. Pour la scène, il avait créé avec son professeur Ilya Alexandrovitch Bounine, que les gens appelaient par son nom de famille, sauf Pavel qui disait Ilya Alexandrovitch, un duo pour le cirque d'État, le duo Bounine. Bounine était auguste, Pavel avait choisi le costume et le maquillage du clown blanc. Il jonglait et crachait le feu depuis sa première année à l'école des arts du cirque. Il était polyvalent comme tous les artistes de cirque soviétique, mais il n'avait jamais pu avaler les couteaux comme son maître Bounine. Ils avaient fait partie de la récente tournée du cirque à l'étranger. Ils en avaient gardé le goût de l'Ouest, mais pas pour y vivre. Leur métier, croyait-il, se pratiquait idéalement en URSS. La liberté, ils ne la connaissaient pas vraiment, comme la lune d'ailleurs. Lorsque les carottes, les saucisses et le pain manquaient aux gastronomes de la rue Tverskaya, ils se débrouillaient autrement. Ils avaient des contacts discrets et efficaces. Souvent, c'est Mitya qui leur échangeait des denrées essentielles. Pavel passait régulièrement boire un coup la veille de la présentation d'une nouvelle scénette sur la piste du cirque. Sa mâchoire portait la plupart du temps des restes de son masque de poudre de riz blanche mélangé avec du talc. Il ne forçait pas sur le blanc, son maquillage n'avait rien de sophistiqué. Mais il tenait à faire de sa peau une page assez blanche pour que la bouche, le nez, les joues, les yeux et les sourcils servent de point de repère pour le public. Un journal français, hein, dit-il, quand même en s'accoudant au bar près de Kolia.
Eh ben oui, ils se rencontrent dans un bar et dans ce bar, il y a des journaux français qui traînent.
Paris Match. Je suis allée là-bas. Les Parisiennes. Des putes qu'on m'a dit. Ah non, de belles femmes, originales et un peu distantes. Tu parles français ?
Oui, je l'ai appris à l'école.
Bravo ! Le clown blanc connaissait deux ou trois mots de français qu'il lâcha comme ça et il décrivit Paris. Les hommes là-bas portent des nœuds et des cravates en soie tous les jours. Et les femmes ?
Elles sont jolies, mais elles mettent beaucoup de maquillage, du rouge sur les joues et les lèvres.
« Des putes !» répéta Kolia, en souriant à moitié.
« Non, non, elles sont bien. J'ai rencontré un écrivain qui avait deux femmes. Enfin, une femme et une maîtresse. Et elles rigolaient ensemble pendant que nous discutions en russe. »
Kolia éclata de rire. Il commanda un autre verre en levant le doigt, puis demanda à Pavel ce qu'il était allé faire à Paris. « Avec le cirque, en tournée en 1956. » Pavel lui montra les taches blanches sur son visage et ses mains. Pas l'ombre d'un mouvement d'admiration chez le jeune, mais une curiosité que le clown apprécia. Ça changeait de la flagornerie à laquelle sa stature l'avait habitué. On parlait du duo Bounine dans les journaux et on publiait à l'occasion des photos de son visage nu pour montrer qu'il était comme tout le monde. On le reconnaissait parfois dans la rue. Kolia n'avait jamais entendu parler de lui.
« Sur les mains aussi ?» demanda-t-il.
« Oui, c'est de la poudre de riz, du talc. On évite les ampoules durant les acrobaties. »«
Pourquoi blanc ?»«
Pourquoi ? Pour que le public voie mes grimaces, mes mimiques. Mais je ne me maquille pas beaucoup en comparaison. En Allemagne, en Italie, en France, c'est grotesque. Ils se fardent trop et les costumes sont immenses et affreux. » Puis, enfin, ils se présentèrent, Pavel, Kolia. Le prénom pour l'un, le diminutif pour l'autre.
« Tu n'es jamais allé au cirque ?»«
Non, jamais. Et l'autre clown, il ressemble à quoi ?»«
L'Auguste ?»« Tu connais Charlie Chaplin, l'acteur ?»«
Je n'ai jamais mis les pieds dans un cinéma. »« Ilya Alexandrovitch est un Auguste extraordinaire et un maître exceptionnel. » Ils parlèrent et burent jusqu'à la fermeture du bar. Pavel lui demanda d'où il venait, ce qu'il faisait à Moscou, et Kolia répondit à chaque question, sans façon, naturellement. Ils se promirent, avant de partir, mille choses qu'on oublie au lendemain d'une cuite. Pavel retrouva sa loge, ivre-mort. Kolia, moins bourré, retourna chez Tania, parce que c'était moins loin que le foyer. Sur le chemin, il s'amusa à agrandir le trou dans la poche de son pantalon. Il aurait aimé qu'elle lui trouve une place pour le cirque, mais elle n'en avait pas. Elle n'en avait plus. En fait, elle en avait déjà eu. « Je n'ai jamais pensé que le cirque t'intéresserait, » dit-elle en reprisant le pantalon retourné. Il lui raconta sa soirée avec le clown du duo Bounine. Tania sourit, ce qu'elle faisait rarement, et lui servit le thé fort.
Oui, donc, cirque, comme on dit en Russie, n'est-ce pas? Cet automne-là, c'est la découverte du cirque pour Kolia. Il va rencontrer à nouveau Pavel, et surtout, il va rencontrer leur maître et formateur dans toute la discipline du cirque, Bounine, puisque Bounine, c'est non seulement un grand clown, mais c'est aussi un professeur des différentes activités du cirque. Alors, la vie peu à peu de Kolia s'élargit, puisqu'il va fréquenter le cirque. Cet automne-là, au cirque, il n'y avait pas de ménagerie, il n'y avait pas de dompteur de fauves, ni de dresseur. Mais sur la piste, il y avait des hommes et des femmes caoutchouc, des acrobates, des clowns, des voltigeurs, des funambules, des fils de feristes, des trapézistes, à tour de rôle ou ensemble, selon l'ordre établi, selon les numéros. Le cirque faisait salle comble grâce au duo Bounine. Et les entrées, c'est-à-dire les scénettes, servaient traditionnellement à désennuyer le public pendant les changements de décor. Ces entrées de Bounine et de Pavel prenaient de plus en plus de place. Bounine avait aussi été acrobate. Il était bourru et bougon, mais sauf sur scène. Il était né à Moscou avant la révolution bolchévique, d'un père aristocrate et d'une mère actrice. Il avait toujours eu le goût de la comédie. Et puis, il avait vécu avec des femmes qui, elles aussi, aimaient le spectacle. Enfin, il avait créé un personnage comique et il était resté ce clown connu en Russie et presque dans le monde entier. Le cirque, oui, le cirque, c'était sa vie. Bounine était et formait les plus grands artistes de la discipline. Au cirque, quand Kolia s'y trouvait, en même temps que Pavel et Bounine, il mangeait selon un rituel immuable. Pavel préparait le thé, Bounine sortait les journaux de la veille et faisait la lecture des passages qu'il jugeait inspirants, des passages qu'il allait intégrer dans le spectacle. Pavel et Bounine s'entendaient sur la façon de présenter l'actualité, rédigeaient quelques gags, une phrase, un mot les relançait. Et c'est ainsi que, en 1961, autour de l'actualité recueillie par Pavel et Bounine, Kolia se familiarisa avec le travail des clowns. C'était toujours Bounine qui avait le dernier mot, comme tous les maîtres. Il n'était pas question de créer des choses contre lui et contre son opinion. Et c'était lui qui proposait les vraies entrées, les vraies scénettes, celle qui faisait que le spectacle avait du succès. Au moment de la représentation, on trouvait au bout du couloir une salle de spectacle bondée, enfumée, et au fond de laquelle, soudain, apparaissaient Bounine et Pavel. Alors Bounine et Pavel vont constituer le nouvel environnement de Kolia, tant et si bien qu'il va chercher à entrer lui au cirque. Mais ce n'est pas si facile. Et d'abord, Pavel lui fait passer un genre d'examen de passage. En fait, Pavel va le voir dans sa troupe de théâtre amateur, puisqu'on a dit tout à l'heure que Kolia était dans la troupe de théâtre amateur de son groupe d'ouvriers, disons. Alors Pavel est convaincu par la performance de Kolia parce que Kolia est discret, parce que Kolia ne fait pas comme les autres acteurs amateurs, il n'en rajoute pas trop. Et en même temps, Kolia, lui, il fait connaissance avec le spectacle de cirque, il y va, il y retourne. Et peu à peu, il se met à rire des gags de Bounine, il se met à rire du spectacle. Pendant la première apparition du duo Bounine qu'il avait vu, Kolia s'était mis à rire, un rire étrange, profond, indiscret, comme une toux grasse qui brise le silence. Mais finalement, il ne s'était pas entendu parce que le monde autour de lui riait aussi fort, très fort et avec lui. Finalement, il aurait voulu se vanter à ses voisins du fait que les clowns, il les connaissait et que même le clown au visage blanc était son ami. Soudain, il avait l'impression d'être né à Moscou, d'avoir 8 ans et l'amitié facile. Pavel et Kolia étaient devenus amis, oui. Et peu à peu, Pavel avait invité Kolia à venir trinquer avec Bounine dans la loge. Ils avaient gagné les coulisses, ils se retrouvaient aux entrées des coulisses. Et Bounine, torse nu, se démaquillait devant la glace pendant qu'il buvait un verre de vodka. Il était quelquefois à la fin du spectacle d'une humeur terrible. Il devait improviser de temps en temps à cause d'un trou de mémoire. Mais avec les premiers blancs, ils avaient su finalement qu'ils pouvaient effectivement improviser et qu'ils retrouvaient ces textes dont ils s'étaient inspirés dans les journaux le matin. Un jour, Bounine remarqua enfin Kolia. Il lui demanda son âge. 24 ans. « Ah oui, ben ton visage a l'air plus vieux. On te donnerait bien une trentaine d'années. » « Qu'est-ce que tu fais ici ?»«
Je fais du théâtre depuis 3 ans, dit-il au maître, et je voudrais être avec vous au cirque. »
Le maître aimait provoquer, et ce soir-là, il avait besoin de se changer les idées. Alors, il dit à Kolia que, oui, bien sûr, il pourrait intégrer l'école du cirque, qu'il n'était pas question de venir travailler avec eux tout de suite, mais qu'il pouvait essayer d'être admis à l'école du cirque et que dans ce cas-là, il étudierait 3 ans pour les métiers du cirque et qu'il pourrait envisager ensuite de participer au spectacle avec eux. Kolia se prit à rêver. C'était permis, c'était gratuit. Alors c'est un peu la nouvelle vie de Kolia, la nouvelle vie de Kolia dont il nous reste plus beaucoup de temps pour l'évoquer. Mais c'est cette rencontre au cirque avec les phrases sèches et précises de Pavel ou de Bounine qu'il va commencer à apprendre, qu'il fait son entrée à l'école du cirque, qu'il est admis à l'examen et qu'une fois à l'école du cirque, il va pouvoir en effet, après une vraie formation, participer au spectacle. Vint le tour de Kolia. Il s'installa debout sur le X dessiné au sol. Il plaça ses pieds en deuxième position de ballet, comme on lui avait appris. Et ça, c'était pour montrer au jury qu'il savait se placer. Il commença. Pavel lui avait dit que l'école ne cherchait pas nécessairement de grands élèves, mais il avait bien appris. Les métiers, il les avait appris à l'école, les métiers des acteurs souples, encore bruts et inexpressifs en entrant, mais bien formés à la sortie. Et là, son examen de sortie, c'était une entrée entièrement mimée qui rappelait Charlot et puis qui dérivait vers le mime Marceau. Le mime Marceau qu'on verrait en URSS en 1965. Pendant 2 minutes... Pavel lui avait montré comment lutter contre le vent. Pendant 2 minutes, Kolia, oui, se battit contre un vent puissant. Il mima cette scène. Il commença avec le mime, donc, puis il fit un monologue avec une bretelle de salopette détachée. Il avait eu l'idée de cette bretelle détachée parce que, sinon, il touchait toujours à ses poches et il ne savait pas quoi faire de ses mains. Alors là, avec une épaule relevée, l'autre à moitié accrochée par la main qui tenait la bretelle, ça donnait au personnage une allure désinvolte qui faisait plaisir à voir. Kolia, donc, avait pratiqué aussi pour le jury le vol du mouchoir. Il était même allé en dérober un à un des membres du jury qui ne s'était rendu compte de rien. Donc finalement, le jury avait été convaincu parce qu'il s'était rendu compte que Kolia, comme les vrais clowns, savait tout faire. Non, il ne savait pas chanter, il chantait toujours faux. Mais enfin, il gagna son rang de sortie, son premier rang de sortie à l'école et il alla travailler ensuite avec Pavel et Bounine. Voilà, on va vous laisser là. Donc, l'homme blanc, le clown blanc, on ne va pas vraiment raconter sa vie. Mais vous saurez l'essentiel, vous savez maintenant l'essentiel, c'est que Kolia, venu de chez les Zek, venu du Goulag, s'est intégré à Moscou, il s'est intégré à la troupe du cirque, il va devenir un véritable ami de Bounine, il va même s'occuper de Bounine, il va vivre avec lui pendant les vieux jours du vieux clown.
Et ben oui, vous l'avez peut-être croisé finalement sur les planches du cirque de Moscou, Kolia, quand il est devenu le clown blanc.
Je peux ajouter que récemment à la télé, je crois, on a vu Chocolat sur le premier clown noir.
Oui.
Et que c'est époustouflant pour voir des présentations de clowns, en particulier au début et tout. Vraiment, il faut voir ce film pour voir des clowns.
Voilà, donc le cirque de Moscou ou bien le film Chocolat, qui en effet évoque le monde du cirque. Et le monde du cirque, c'est toute la fantaisie de la vie. Donc on va vous laisser là-dessus, on va vous souhaiter pour aujourd'hui un temps pas trop gris, on va vous souhaiter une bonne semaine et vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.